reviens, parce que c'est très important d'avoir des idées nettes sur la question de la subsistance et de la personne. Et de l'individuation. Oui, tous ces problèmes se tiennent. Et aujourd'hui, quand on regarde cela au point de vue psychologique, c'est tout dans le même sac. Et on fait de graves erreurs. Parce que nous touchons là à la lisière du monde être et vie. Vous voyez, on touche à la lisière de l'être et de la vie quand on voit la différence entre la substance et l'âme. La substance est première dans l'ordre de l'être. L'âme est première dans l'ordre de la vie. Distinction importante à faire entre le point de vue de la vie et de l'être. Il faut revenir toujours sur cette distinction-là, parce que la vie est débordante et très facilement, la vie enveloppe l'être et on ne voit plus la différence entre l'être et la vie. Ce serait intéressant du reste, ça vous éclairerait si on voyait les conséquences. Et les conséquences sont très nombreuses. Vous voyez, il y a une forme d'athéisme qui justement confond l'être et la vie. Au point de vue de la vie, on se meut. Au point de vue de l'être, on est créé. Là, vous voyez, la liberté de celui qui se meut et l'être, celui qui est totalement dépendant du Créateur. Là, on voit tout de suite. Pour ceux qui confondent l'être et la vie, mais la vie, la liberté est l'absolu. Et donc, si on est libre, on n'est pas créé. C'est pas commode, hein, d'affirmer qu'on est créé et d'affirmer qu'on est vivant. Il faut bien affirmer les deux. Alors, il y a quelque chose d'analogue et de très important entre le point de vue de la subsistance et la personne. La subsistance, donc, c'est au niveau du principe d'être. Le principe d'être subsiste. Et je vous ai montré combien c'était important, cela. Parce que ça montre que le principe d'être n'est pas abstrait. On a toujours une conception, hélas, des principes comme si les principes étaient abstraits. On confond l'universel et le principe. On confond le principe et la loi. Parce que le principe, il est premier. La loi n'est jamais première. Elle est toujours seconde. La loi, c'est une relation. Il faut arriver à bien définir ça. Le positivisme confond loi et principe. et nous sommes tous un peu des petits-fils d'Auguste Comte. Tant qu'on ne s'est pas purgé de cette parenté avec Auguste Comte, on confond loi et vie, loi et principe. La loi est abstraite. Le principe n'est pas abstrait. Le principe, il est. La substance, elle est. La substance implique l'existence. Fondamentalement, radicalement. Et c'est ce qui s'exprime par le point de vue qu'elle subsiste. La substance subsiste. La substance est un principe, et ce principe subsiste, parce que c'est un principe d'être. Donc ce principe d'être n'est pas abstrait. Ça, c'est très important d'arriver à bien distinguer ça, parce qu'autrement, on considère toujours que la métaphysique est abstraite. On a de la peine à considérer que la métaphysique n'est pas abstraite. Il faut arriver à une conception de l'être au-dessus de la distinction genre et individu. Le genre est abstrait. Et le genre, on sait ce que c'est. Hein. Notre intelligence abstrait pour le genre. Or, le genre n'implique pas l'existence. Il est seulement l'intelligibilité générique. L'intelligibilité qui se prend ex parte materiae. Et on confond très souvent le principe de l'être avec le point de vue genre. Quand Aristote dit, tout en passant, l'être n'est pas dans un genre. L'être n'est pas dans un genre. Vous avez lu ça plusieurs fois. Et ça, Thomas le prend. L'être n'est pas dans un genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre intelligence, lorsqu'elle touche l'être et qu'elle saisit le principe d'être, la substance, elle n'est pas abstraite. Elle n'est pas abstraite selon l'abstraction générique. Elle est séparée, c'est-à-dire qu'elle coupe, sépare, pour prendre ce qui est premier de l'accidentel. La coupure est différente. L'abstraction se prend du singulier que j'expérimente avec l'universel que je connais. Mon intelligence commence à connaître dans le genre. Je passe de papa à homme. Nous avons tous passé par là. Mais vous ne vous rappelez pas. Et on a compris homme d'une façon générique. Homme est un genre, le genre homme. Genre homme, genre animal. Dans l'homme, l'aspect générique, c'est animal. Homme est déjà spécifique parce qu'il est rationnel. Et en tant qu'il est rationnel, il se sépare de tous les animaux. Donc, il y a là quelque chose de très important à saisir pour, j'allais dire, l'hygiène propre de notre intelligence. C'est que notre intelligence abstrait de l'individu le genre. Elle fait ça spontanément. Et le genre est abstrait de l'existence. C'est un être de raison. le principe n'est pas un être de raison. Pour la plupart des gens, le principe est un être de raison. Il ne voit pas que le principe de l'être, c'est l'être dans ce qu'il a le plus lui-même. C'est l'être au carré. Et donc l'être au carré implique intelligibilité et l'existence. Et pour bien montrer ce caractère du principe, on parle de la subsistance. Celui qui est par soi. Oui, j'insiste parce que c'est capital, ça, de comprendre que la métaphysique n'est pas abstraite au sens de l'universel. C'est pas un être de raison, la métaphysique. Elle touche l'être. Elle touche mon âme. Quand je parle de la substance, ah, j'ai une connaissance nouvelle de mon âme. Toute étude que nous avons faite sur la substance, ça nous a permis de mieux connaître notre âme et de la distinguer de la substance. J'ai ajouté quelque chose de nouveau. Et quelque chose de très important, parce que le premier dans l'ordre de la vie, très facilement, on l'identifie au premier dans l'ordre de l'être. Et en faisant ça, on commet une grave erreur. Donc, la subsistance, c'est au niveau du principe d'être de la substance. La personne implique la subsistance. C'est sûr. La personne implique la subsistance. Et c'est la première dimension de la personne, c'est l'autonomie. Vous avez une autonomie réelle grâce à votre substance. C'est votre substance qui vous donne autonomie. Ce n'est pas votre âme. Ah, c'est curieux, ça. Votre autonomie, elle est... Alors, votre âme vous donne votre substance consciente, la conscience de votre conscience, par l'intelligence. Mais ce n'est pas votre autonomie dans l'ordre de l'être. Ce n'est pas vous qui vous donnez votre autonomie. Vous l'avez parce que votre âme, substance première, substance dans l'ordre de l'être, subsiste. Elle subsiste par elle-même. Vous voyez, mon âme est créée et ma substance subsiste par elle-même. Là, vous voyez comme facilement on confond ça. Et essayez de comprendre ça. Schopenhauer confond les deux et tout son idéalisme athée provient de ça. Donc, certains ont confondu ça et beaucoup confondent les deux. L'autonomie de la personne provient de sa subsistance. C'est mon autonomie dans l'ordre de l'être. Et cette autonomie, de fait, se caractérise de cette façon particulière que mon autonomie, elle est dans ma substance qui informe le corps. Et du fait même que ma substance informe le corps, mon corps lui apporte l'individuation. Ma substance est individuée par mon corps. Ma substance n'est pas individuée par elle-même. Elle subsiste par elle-même, mais elle est individuée par mon corps. Oui, c'est assez subtil ça, et c'est pourtant très important, parce que l'on touche le principe de l'être. C'est très important de regarder que le point de vue matériel, mon corps, c'est le point de vue matériel, mon corps fait partie de ma substance, mais ne fait pas partie de mon être. Ne fait pas partie du principe d'être, la substance. Le principe d'être est au-delà de la matière. Et mon âme est dans la matière. Arriver à bien comprendre ça, c'est un peu subtil, hein, mais c'est très important. Parce que si vous dites que votre substance est matérielle, vous faites de la substance, vous faites de la matière une substance. Donc, principe d'être. Ah. Alors, tout être en tant qu'être est matériel. L'être en tant qu'être n'est pas matériel, est au-dessus. C'est pour ça qu'il peut être purement spirituel. Là, vous voyez, la naissance d'une philosophie matérialiste qui ne dépasse pas la matière, ça provient de là. C'est qu'on considère le corps, il est uni substantiellement à mon âme. Du fait qu'il est uni substantiellement à mon âme, il est donc premier. Non. Il est uni substantiellement à mon âme et il reste toujours second. Mon corps n'est pas premier. Oui, j'insiste parce que, au fond, beaucoup d'erreurs, je ne dis pas toutes les erreurs, mais beaucoup d'erreurs consistent à considérer que mon corps étant uni à mon âme est donc substantiel, donc il est premier. Attention, la substance est première, mais pas ce qui est substantiel. Il y a une différence entre dire que le corps est substantiel grâce à l'union à l'âme. L'union du corps et de l'âme est une union substantielle. Mon corps fait partie essentielle de ma personne. Je ne peux pas dire, hein, couper à ma personne, c'est mon esprit. Mon corps, c'est la matière. Oui, mais ce qui est très curieux, c'est que chez l'homme, mon corps est substantiel. Il fait partie de mon être. C'est très mystérieux, ça. C'est très mystérieux et c'est très important. Il faut à la fois, vous voyez, ne pas exalter le corps en le considérant comme un principe d'être. Ce n'est pas un principe d'être, mon corps, c'est un principe du devenir. Ah. Mais il n'est pas principe d'être, c'est ma substance qui est principe d'être. Et ma substance n'est pas matérielle. Ma substance, c'est l'être premier. Donc, je ne dois pas considérer mon corps à l'égal de mon âme. Mon âme assume le corps. Mais mon corps est assumé par mon âme. Donc le corps est toujours relatif à l'âme. Vous ne pouvez pas saisir ce qu'est votre corps humain sans voir la relation avec l'âme. Et c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas parler de l'âme au point de vue philosophique tombent dans le matérialisme. Parce qu'ils font de la du corps, donc de la matière, un principe d'être. Mon corps n'est pas un principe d'être, il est principe du devenir. Le devenir cohabite en moi. C'est sûr, le devenir cohabite en moi. J'étais dans le petit berceau. Vous vous souvenez bien? J'étais dans le petit berceau. Puis j'ai commencé à marcher. Et c'était ma petite personne qui commençait. Elle a commencé par marcher. Et puis, le corps, il a grandi. Il a grossi. Il est arrivé à une certaine taille. Il est resté dans le haut plateau pendant assez longtemps. Puis tout d'un coup, il dégringole. Maladie mortelle, hein, il dégringole, et séparation du corps et de l'âme. Mais le corps est principe du devenir, de la croissance, de la décroissance. Il est principe de ça. Mais il n'est pas principe d'être. Et très facilement, des gens même très pieux, parce que la piété, elle est trop miséricordieuse quelquefois, vous voyez. Alors la miséricorde n'entre pas dans la métaphysique. Hein. La miséricorde, c'est dans la vie. On est miséricordieux par rapport à la vie. Mais pas par rapport à... Vous êtes miséricordieux pour votre corps, parce qu'il est fatigué, votre corps. C'est pas votre âme. Votre âme, elle peut être fatiguée par le corps, mais ça, c'est pas bien. Votre âme dit, mon corps est fatigué. Il a besoin de repos. Et mon âme, comme elle est infiniment miséricordieuse, et elle est très miséricordieuse pour le corps. C'est vrai, la première miséricorde que vous avez exercée, c'est à l'égard de votre corps. Le premier moment où vous avez compris ce que c'était que la fatigue. Le gosse n'aime pas beaucoup d'être fatigué. Il n'aime pas du tout d'aller se coucher. Pourquoi ? Parce qu'aller se coucher, c'est reconnaître que mon corps n'est pas ma vie. Et ça, c'est très désagréable. J'aime bien d'exalter un peu mon corps. Alors, je ne dois pas l'exalter trop. Mon corps vit grâce à mon âme. Il a donc une vie participée. Il n'est pas principe de vie. Vous voyez, comme c'est important tout ça, ça éclaire la place du corps. Je ne peux jamais regarder le corps en lui-même. Regarder le corps en lui-même, c'est faux. Il faut regarder le corps relativement à l'âme. Parce que mon corps est vivant. Oh, c'est intéressant, c'est mon corps vivant. Mon cadavre, c'est beaucoup moins intéressant. Vous n'aurez pas beaucoup de respect pour votre cadavre. Ben, vous allez le quitter. Et puis, ça dans d'autres mains. Et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. On le brûle. Alors, il n'y a plus que des petites cendres. C'est mon cadavre. mon âme, je ne sais pas comment elle regarde le petit dépôt de cendres. Ça, je n'en ai pas l'expérience. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Mais ça doit être assez curieux. Je suis habitué avec mon corps, quand même. Je l'aime, mon corps. J'aime mon corps. Il est quelquefois très ennuyeux, mais je l'aime quand même, mon corps. J'aime de le caresser. J'aime un petit peu de tendresse pour mon corps, quand même. Soyez pas si brutal. Mon corps aime ça parce qu'il est fatigué. Et la mort fait que votre corps sera dans d'autres mains. Ouh. Et ces mains n'auront pas le même respect pour votre corps que le respect que vous avez. Et pour avoir beaucoup de respect pour le corps, on va l'incinérer. Ça veut dire, dépêche-toi de disparaître. C'est ça, hein, veut dire, dépêche-toi de disparaître. Tu occupes une place indécente, parce que dans le cimetière, il n'y a plus de place. Alors on va incinérer. C'est très curieux, une civilisation qui incinère les corps. Et l'Église qui est obligée de dire, c'est pas l'Église qui l'a inventé. Ah non, non, non. Ça a été inventé par un principe économique. Alors, tous les principes économiques ne viennent pas de l'âme. Ils viennent du corps. Mais on n'a pas demandé la vie au corps. Alors, on le demande aujourd'hui aux gens, est-ce qu'on va vous incinérer? Oui, oui, incinérez-moi, c'est beaucoup mieux. Qu'on n'en parle plus du corps. Alors, bientôt, il n'y aura plus que les religieux, les religieuses qui enterreront dans leur cimetière leurs ancêtres. C'est très curieux, mais c'est un signe de dégénérescence, hein. Ne pas avoir de respect vis-à-vis du corps. Parce que la mort fait que je quitte mon corps. Et donc, mon corps, je le confie aux gens qui m'ont aimé. Et si je n'ai personne qui m'a aimé, mon corps sera là. Vous savez, c'est effrayant de voir ce qu'on fait des cadavres dans les grandes villes. Hein. Surtout quand quelqu'un est mort et on ne sait pas. Alors on le garde. Et vous faire reconnaître le corps, c'est bien le corps de telle personne. Il y a un anonymat du corps. Il perd son caractère d'être le corps de quelqu'un. C'est mon corps. Avec la mort, il perd ce droit d'appartenir à telle âme. Et dans l'incinération, il y a ça. Il y a quelque chose qui manque de respect. Bon. Vous voyez que ces petites distinctions philosophiques vous permettent d'avoir un jugement exact sur une civilisation qui se dégrade. Parce que le respect des morts a toujours été le signe d'une civilisation qui se respecte. Quand, de fait, il n'y a plus de respect des morts, la civilisation dégringole. C'est très curieux, ça. Le respect des morts est toujours le signe d'une civilisation qui respecte l'homme. Alors l'union de l'âme et du corps, voyez, est très importante, puisque cette union est substantielle. C'est-à-dire que mon corps, qui par lui-même n'est pas substance, est substance par mon âme. Il est uni substantiellement à mon âme. Et quand mon âme s'en va, mon corps n'est pas substance. Il se désagrège. Il n'y a plus d'unité. Et c'est important de comprendre au-dedans de nous-mêmes, actuellement, l'union de l'âme et du corps, la subsistance de ma substance, de mon âme, qui est ma substance. Je subsiste par mon âme. Alors, la personne a comme première dimension la subsistance. Mais voyez que cette première dimension n'existe plus pour le cadavre. Mon âme continue, continue d'être en relation avec mon cadavre. J'en ai pas l'expérience, mais je peux le dire au point de vue métaphysique. Mon âme est liée au corps d'une façon telle que être séparé du corps, c'est une punition. La mort n'existerait pas s'il n'y avait pas le péché. Et pour faire comprendre le sens du péché à ceux qui ne croient pas en Dieu du tout, il faut qu'ils regardent leur corps, leur cadavre. C'est très important, parce que la mort est une expérience dure. C'est une expérience dure, mais c'est une expérience humaine. Humaine, parce qu'elle me regarde. Moi, elle détruit mon unité. Elle me met dans un état anormal. C'est anormal, conséquence du péché. Et donc, c'est important de revoir la conséquence du péché dans la mort, séparation du corps et de l'âme. La séparation de l'âme et du corps n'aurait pas existé selon le premier gouvernement de Dieu sur l'homme et la femme. Il n'y aurait pas eu la mort. Conséquence du péché. Et vous voyez, on ne regarde plus ça du tout maintenant aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que le péché. Séparation de l'homme par rapport à Dieu. On ne sait plus ce que c'est Dieu, donc on ne sait plus ce que c'est que le péché. Et on considère la mort, oui, c'est fatal. C'est le fatalisme, il faut la mort. Et on supprime la signification de la mort. Et supprimer la signification de la mort, c'est très grave. Parce que c'est supprimer la signification de la nature humaine dans sa pauvreté. La pauvreté radicale de l'homme, c'est de mourir, d'être ordonné à la mort. Je ne suis pas ordonné à la mort par mon âme. Je suis ordonné à la mort par mon corps. Mon corps porte en lui cette possibilité de mourir. La mémoire du corps, si la mémoire du corps, c'est bien là. Elle est fondamentale. Elle est radicale. Et c'est le divorce. Quand on se porte bien, l'âme est unie à mon corps. C'est normal. Et c'est même très bien. Et c'est très beau. Mon âme donne à mon corps une noblesse, une grandeur. C'est mon corps. Mais la maladie, et la maladie mortelle, mais ce schisme, cette séparation présente dans mon corps, qui se séparera de l'âme, il n'y aura plus la possibilité d'être maintenu dans l'unité, l'individuation. Mon âme est individuée par mon corps. Et à la mort, mon âme continue d'être relative à mon corps, d'avoir un lien. Alors, dans l'incinération, vous voulez que ce lien disparaisse le plus possible. Qu'on n'en parle plus. Parce que la mort, c'est trop pénible. Il vaut mieux en parler le moins possible. Alors que c'est un manque de réalisme de ne pas vouloir parler de la mort. C'est un manque de réalisme. C'est un manque de connaissance de mon corps. C'est un manque, par le fait même, de l'union de l'âme et du corps. Il y a quelque chose qu'on ne connaît plus et qu'on ne veut plus connaître. Et je suis persuadé que c'est une vision idéaliste qui n'est pas vraie et qui fait que petit à petit ma relation corps et âme, âme et corps s'alourdit, elle perd son sens parce que mon corps, je dois l'aimer et je l'aime encore. Et je dois l'aimer. Et je dois l'aimer comme quelque chose d'inférieur, mais d'essentiel, de substantiel, et de second. Et par le fait même, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne demande pas à mon corps n'importe quoi. Je le respecte. Parce qu'il est mon corps. Voyez, ceci montre que je ne peux pas parler du corps sans regarder l'âme. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait pouvoir parler du corps sans parler de l'âme. Alors, là, on enlève à l'âme son rôle principal d'être forme du corps. C'est un rôle substantiel. Mon âme est unie à mon corps substantiellement. Si je supprime ça à mon âme, parce que je ne parle plus de l'âme, je ne peux plus comprendre le corps de l'homme. Toute l'intelligibilité de mon corps vient de mon âme. Je me souviens avoir dit ça à Fribourg. Il y avait un Espagnol qui avait fait des études très profondes au point de vue de l'âme, au point de vue du moins de la vie, au point de vue de la vie. Il est sorti de là, tu vois. Mais c'est affolant. Parce que nous voulons toujours étudier le corps. Lui-même. Nous étudions le cadavre. Et nous voulons tout comprendre par le cadavre. Or, vous avez dit, l'intelligibilité du corps vient de l'âme. C'est ce que dit Aristote. Hein. Aristote dit ça. Oui, c'est le matérialisme. Le matérialisme, on veut que la matière soit intelligible par elle-même. Le positivisme en arrive à ça. Donc, mais dans l'erreur, mais c'est très bien caché, mais dans l'erreur, et tout le monde continue d'accepter ses erreurs, comme si on pouvait étudier le corps pour lui-même. Il faut donc bien distinguer le point de vue subsistance, le point de vue personnification de mon âme, de mon corps par mon âme. Mon corps, j'allais presque dire, il devient le corps d'un homme. Progressivement, il devient le corps d'un homme. Mon corps, de plus en plus, s'affine par l'âme pour être meilleur serviteur de l'âme. Mais il peut aussi faire juste l'inverse. Il peut s'alourdir. Il peut se séparer de l'âme et vouloir être lui-même. Vous voyez ? Il y a ce point de vue-là dans le déclin de toutes les civilisations. Le déclin de toutes les civilisations commence par l'exaltation du corps et vouloir regarder le corps pour lui-même et l'exalter de mille façons. L'exalter en le mettant entièrement à mon service. On veut devenir le sportif numéro un dans tel sport, le corps est voulu pour lui-même et exalté comme corps. C'est pas mon âme, c'est le corps. Oui, les compétitions sportives sont terribles à ce point de vue-là, parce que ça dégrade. Et ça veut regarder le point de vue du corps pour lui-même et en lui-même. Et ça se voit tout de suite dans une civilisation. Vous voyez, dans la civilisation romaine, nous savions très bien, et on sait très bien, c'était l'exaltation du corps. Dans la civilisation chrétienne, ça a mis plus longtemps. Parce que le chrétien a un sens du corps très particulier. Regardez le corps comme faisant partie de ma substance. C'est la réalité que le philosophe doit dire, puis que le philosophe a souvent de la peine à regarder. Parce que on idéalise toujours un peu. Alors, c'est très difficile d'idéaliser dans la personne humaine le point de vue du corps. Et on idéalise. Et on considère que le corps doit arriver par lui-même à se développer, à emporter le prix premier dans le sport, le premier dans les concours de ski. on fait des choses extraordinaires, là, étonnantes. Des corps volants. Ah oui. Et on aime ça. La danse peut très bien dégénérer pour être au fond uniquement l'exaltation du corps. Alors que la danse, en tant qu'art, c'est l'exaltation de la personne et donc de l'âme humaine qui se sert du corps le mieux possible en vue de la finalité. Or, il n'y a pas de finalité du corps pour lui-même. Ma finalité vient de mon âme. Vous voyez, alors la première chose, quand on ne parle plus de l'âme, on veut donner au corps une finalité dans l'agilité, le point de vue virtuosité la plus grande possible, dépasser tout ce qu'il y a d'être le premier dans cette habileté. Oui, c'est matériel. Je crois qu'il y a pour nous, parce que on assiste au déclin d'une civilisation chrétienne, il y a à regarder avec beaucoup d'attention ce qu'on fait du corps. Comment on comprend l'union de l'âme et du corps. Comment on la comprend dans la lumière de la substance. Comment on peut la regarder d'une façon qui n'est plus juste, en regardant le corps comme si la finalité était dans le corps. La finalité est du côté de l'esprit, mais on peut inverser l'ordre. Et alors, on a cette recherche du fondement. Je crois que la recherche du fondement, ce qui est fondamental, très souvent, c'est l'abandon de la finalité et on cherche la finalité dans la cause matérielle. Et on a le fondement. Il y a donc une étude très importante pour nous. Et très forte il faut faire de respecter le corps, on doit le respecter parce que ça fait partie de ma substance, ça fait partie de ma nature, donc je dois respecter le corps, c'est un don de Dieu. Je respecte le corps. Et je ne dois pas l'exalter pour lui-même. C'est quand je perds cette relation corps relatif à l'âme qu'il y a cette tentation de vouloir exalter le corps pour lui-même. Ce qui arrive fatalement dans une civilisation qui ne veut plus parler de l'âme. Une civilisation positiviste ne veut plus parler de l'âme parce qu'elle ne parle que de ce qu'on constate. Alors, par le fait même, on se replie sur le corps et le corps est regardé comme le fondement, la base. Et c'est vrai, c'est le fondement de notre personnalité, mais ce n'est pas la finalité. Mais comme fondement, le corps a un rôle extrêmement important. Il faut donc bien préciser, au point de vue philosophique, point de vue de l'être, point de vue métaphysique, subsistance et personne. La personne, c'est la victoire de la finalité sur le devenir. C'est ça ma personne. C'est que je suis maître de ce devenir et je veux le finaliser. Or, il n'y a pas de fin dans le corps, puisque le corps est toujours second. La finalité est au-dessus du corps. Amitié, contemplation. Et la personne, c'est justement connaître ce devenir de ma nature à cause de mon corps, le respecter et faire que ce devenir soit finalisé, qu'il prenne toute sa signification. Et la personne, c'est un devenir finalisé. Finalisé par l'âme, puisque mon corps n'a pas de fin en lui-même. Et cette fin est soit l'amitié, soit la contemplation. Il y a là, donc, quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. La personne regarde toujours l'âme unie au corps. Et la personne, dans le développement de la personne, dans l'acquisition de la personne, c'est quelque chose que j'acquiers. Tandis que la subsistance, je ne l'acquiers pas, elle m'est donnée. C'est quelque chose que j'acquiers, c'est pour l'acquérir, c'est la finalité qui, de plus en plus, s'empare de la causalité matérielle, c'est-à-dire du corps. Je suis une personne dans la mesure où mon corps est totalement finalisé. Vers l'amitié ou vers la contemplation. S'il n'y a pas cette finalité, il y a le repli sur le corps lui-même et il devient le fondement de tout qu'on respecte. Mais il n'est pas finalisé. Et ma personne ne peut pas être uniquement dans le fondement. C'est l'exaltation du corps, alors.